19h, 20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Ramadan & Co, bienvenue dans l'incubateur à idées de Beurre FM, une heure pour parler de sujets sérieux sans se prendre au sérieux. Et ce soir, l'islam est-il une religion féministe avec Nadia El Bouga. Bonsoir Nadia.
Bonjour Philippe.
Sage-femme, sexologue, féministe et musulmane. C'est vous qui dites.
Oui, tout à fait, et j'assume toutes ces facettes.
Bien, assumez jusqu'à 20h. Erika Pouet est à côté de vous. Bonsoir Erika.
Bonsoir.
Vous êtes, vous avez écrit Moukabala ou les confessions des musulmanes du siècle et vous êtes convertie depuis 17 ans.
Voilà, c'est ça.
Bienvenue sur Beurre FM.
Merci.
Karima Chadibaou est arrivée. Bonsoir
oui,
Karima.
Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde.
Cadre familial, parental, formatrice au sein de l'Institut européen d'études et de recherche sur les thérapies holistiques.
Oui.
Ravi de vous revoir Karima.
Merci aussi.
Le cher Islam Imad Ahmed est avec nous. Bonsoir cher. Heureux de vous accueillir sur Beurre FM. Vous êtes imam de la mosquée d'Alfortville, théologien traditionniste. Ça vous va comme présentation?
Oui, ça me va.
Jameldine Oulad est là. Bonsoir Jameldine.
Bonsoir Philippe, salam alaikum.
Théologien, bienvenue sur Beurre FM. Et Maître Serran, vous êtes là également. Et vous savez que Maître Serran, c'est vous qui ouvrez le bal, si je peux me permettre.
Bah écoutez, permettez-vous. Yallah, c'est parti, sœurs et frères, c'est très solennellement que Maître Serran vous salue. Nous sommes donc à mi-chemin de ce mois sacré, voire même mi-chemin plus un, et je suis prêt à déclarer officiellement que je trouve que le Ramadan passe beaucoup trop vite cette année. Il faut reconnaître que les conditions climatiques sont propices, à moins que l'âge faisant, Maître Serran, revoyant ses priorités, désormais beaucoup plus portées sur la religion qu'auparavant. Normal, plus on prend de l'âge et plus on se rapproche du Créateur. Et j'aimerais y arriver avec quelques bons points. Je dois reconnaître que quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, mon cher Philippe, je m'autorisais un Ramadan à la carte. J'en ai honte aujourd'hui. En même temps, c'est normal. Hein. Quand t'es jeune, c'est l'âge où, vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas développer non plus. C'est l'âge où t'as du mal à maîtriser. Tonnerre de feu, c'est comme ça que je l'ai baptisé. Et puis, il faut croire que le musulman, ça s'agit avec l'âge. Enfin, ça s'agit, sauf vers l'âge de 60 ans. Car vers 60 ans, le musulman ne pense qu'à une chose. Non, non, c'est pas aller à la Mecque, c'est rechercher une petite jeunette et en plus, s'il peut la mettre en cloque, pourquoi pas? Alors, il me reste encore une dizaine d'années pour basculer du côté obscur de la force. Je préviens tout de suite ma future ex-épouse. Mais tout ça n'est rien, mon cher Philippe. J'aimerais profiter de mon intervention pour lancer un appel. J'invite les ravisseurs qui séquestrent Monsieur Chalgoumi à le libérer immédiatement. Je suis inquiet, mon cher Philippe, on n'a pas entendu parler de Chalgoumi depuis quelque temps. Je m'attendais à une intervention de sa part pour le début du Ramadan, mais rien, frère. Tiens, j'ai même tapé son nom sur Google pour suivre son actualité, et là, rien de nouveau. Je suis sûr qu'il a été enlevé. Je suis prêt, si nécessaire, dans ma grande générosité, à verser une rançon qui, en cette période sacrée du Ramadan, sera l'équivalent de 2 kilos de dattes. Je vous l'ai dit, je suis généreux, mais Chalgoumi le mérite. J'ai quand même une petite idée sur les ravisseurs. Il paraîtrait, hein, qu'il aurait été séquestré par les membres d'un collectif intitulé « Sauvons la langue française ». C'est des mecs qui sont durs, ils sont sans pitié. Il se dit même sur le Darknet que pour torturer Chalgoumi, il n'hésite pas, tenez-vous bien, hein, à lui lire des pages du dictionnaire. Il l'oblige même à ouvrir un Becherel. Ils sont sans pitié. Il est même suivi par un orthophoniste pour l'obliger à bien prononcer les mots en français, si possible sans accent. Je vous tiendrai bien évidemment informé des suites de cette enquête. Mais en attendant, nous allons nous demander si l'islam est une religion féministe. C'est la question du jour. Alors oui, pour certains d'entre vous, cette question ne devrait pas se poser puisque tu considères qu'islam et féminisme seraient de facto incompatibles. Pauvre tâche, allez, écoute cette émission et instruis-toi. C'est donc à vous, mon cher Philippe.
Et on accueille Kamel Chekat qui nous a rejoint. Bonsoir Kamel.
Bonsoir à vous. Salam alaikum.
Vous êtes au téléphone et membre fondateur de la Ligue des Oulémas du Sahel. Et vous êtes une des grandes signatures de Beurre FM et du Ramadan. Alors, est-ce qu'on peut opposer le mot féministe et islam, cher Islam Ibn Ahmed? Est-ce que ces mots sont tellement contradictoires?
Au principe, qu'est-ce qu'on entend par féminisme? Si on entend par
c'est,
le féminisme.
C'est à moi qui ai dirigé la question.
Non, c'est pas à vous, Kamel. C'est pas encore. Pas encore.
D'accord.
Ça va être compliqué au téléphone, mais on compte sur vous. Alors, oui. c'est le Shir Islam Ibn Hamad qui répond à la question.
Merci. Donc, si on entend par le féminisme une action menée par différentes catégories de société en faveur de la femme, défendre la femme, ses droits, sa liberté, etc., dans ce cadre-là, bien sûr, l'islam n'est pas tout simplement incompatible, il est bien compatible avec le féminisme.
Mmh. Nadia?
Oui, j'attendais la suite, en fait. Pourquoi ouais. Vous avez une autre définition du féminisme? Vous dites si le féminisme, c'est ça. À ma connaissance, le féminisme, c'est tout simplement la lutte pour les droits des femmes au niveau politique, social. Oui, on ne va pas jouer sur les mots. C'est la défense des droits des femmes, si vous préférez. Voilà, pour au niveau social, au niveau politique, au niveau philosophique, spirituel, religieux. Donc, je rebondis sur ce que dit Cheikh Islam. En fait, la définition c'est ça. Après que des gens fourvoient le féminisme, c'est autre chose. Mais à la base, c'est l'objectif du féminisme, c'est ça. C'est-à-dire que si on était dans une société où il y avait une égalité de fait, il n'y aurait pas de féminisme. Il y aurait un humanisme, point.
Non, mais après la question, vu qu'on est face à des concepts, donc chacun il a son interprétation des choses. Donc si on se met d'accord sur ce principe-là, cette définition-là, bien sûr, je confirme que l'islam est bien compatible au féminisme.
Kamel Chekat.
À travers peut-être des exemples. Théoriquement, mais dans la pratique, donc théoriquement, dans la théorie qu'on entend depuis des années et des années, oui, l'islam, il est pour les droits de la femme compatible. Mais quand on vient à la réalité sur le terrain, je crois qu'il y a... Il y a un gap, il y a un fossé entre le message qu'on véhicule et entre...
Ce qu'on doit reconnaître en tant que musulman, c'est que moi, généralement, dans mes interventions, je fais la part des choses. Je fais la différence entre l'islam du prophète et l'islam des hommes. En fait, l'islam qui dure depuis 14 siècles d'empreintes humaines, ce n'est pas un islam féministe tout simplement. Il est incompatible tout simplement même aux droits les plus basiques d'une femme, qu'elle soit musulmane ou non musulmane. Et donc ça, il faut en parler. Mais l'islam, que je considère l'islam pur du prophète, les traditions du prophète ainsi que le Coran, est bien compatible. Mais malheureusement aujourd'hui, quand on voit la femme musulmane, est tout simplement une femme qui a été expulsée de toute forme de droit.
Alors Kamel Chekat, j'essaie de vous donner la parole, Kamel. Est-ce que vous, pour vous, le mot islam et féminisme sont compatibles?
Vous savez, bon, avant de répondre, il y a une multitude de préalables à mettre sur la table. C'est ça le problème, parce que là, vous me posez une question qui est toute, en apparence toute simple, mais il y a un fond philosophique et idéologique qu'on ne peut pas occuper. Je dirais que non, ça ne peut pas être compatible parce que le féminisme va dans un sens et l'islam va dans un autre sens. Si les féministes parlent d'égalité de sexe, en islam, nous parlons beaucoup plus d'égalité de genre. Maintenant, pour ce qui est des droits de la femme, pour être un peu plus explicite et de manière pratique, à l'époque de la révélation, les femmes travaillaient, les femmes sortaient de chez elles. Le prophète m'a encouragé les femmes à s'inscrire. Même que ma femme qui a appris à l'une de ses épouses à lire et à écrire, qui s'appelle Shita Obinka Abdillah, a même été nommée juge sous le califat de Omar ibn Khattab pour gérer tous les outils du grand marché de Médine, ce qui faisait office de Wall Street à l'époque. Donc, vous savez, c'est pas très facile de répondre à la question comme ça, d'entrée de jeu.
Alors, comment préféreriez-vous y répondre, Kamel?
Comment
préféreriez-vous y répondre?
Je dirais que bon, qu'il y a eu une émancipation ou un travail visant à émanciper la femme qui a été amorcé par les prophètes de l'islam à l'époque même de la révélation, mais qui a été stoppé net après les quatre califes. C'est ça notre problème. Et alors que... Par exemple, hein, je préfère citer des exemples pour bien vous rapprocher la chose. Les sciences religieuses ont toujours été un domaine réservé exclusivement à la jeune masculine. À l'époque de la révélation, il y a une femme qui est allée voir les messagers de l'islam disant les hommes ont profité de sa science, quand pourrions-nous apprendre nous aussi? Et il a organisé une classe tenu pendant un certain temps et où les femmes prenaient justement du savoir religieux. Après l'islam, on a entendu des savants, on a même vu des imams sur leur terre dire, par exemple, béni soit cet an où les femmes ne sont faites de ses ailes que deux fois dans leur vie, le jour de leur mariage et le jour de leur enterrement. Vous comprenez?
Donc il y a une contre-révolution qui s'est opérée. Mmh. Et le problème, c'est que nous avons des textes qui indiquent que la femme jouit de toutes les libertés pratiquement. Et même si je devais citer certains principes juridiques tels que l'héritage, etc., nous pouvons, je dirais qu'il ne faut jamais étudier un verset ou un hadith de manière parcellaire. On étudie tout un chapitre dans son ensemble et on peut répondre à toutes les questions, il n'y a pas de problème. Sauf que les hommes ont fait un travail qui n'est pas du tout compatible avec ce qui a été engagé par le prophète avec l'avènement de l'islam. Mais de là à dire qu'il y a compatibilité entre le féminisme et ce désir d'émanciper la femme ou de donner à la femme un certain nombre de droits, non, il n'y a pas de compatibilité.
Alors, cher Islam, et après Erika.
Je crois qu'il y a un problème fondamental. Dans ce qu'il dit l'intervenant, je pense que c'est le frère Kamel.
Kamel Chikert, oui.
Je crois que c'est une démonstration de 14 siècles d'échec chez les musulmans. Je m'exprime. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle des droits de la femme, on a deux discours, on adopte deux discours, malheureusement. Soit un discours comparatif, mais regardez les juifs, comment ils sont injustes à l'égard de la femme, et donc pour justifier nous. Mais on ne parle pas aux juifs, on parle à l'humanité. Et donc ça, c'est le premier échec. Et le deuxième échec, à chaque fois on essaye de cacher des textes en donnant d'autres textes. C'est comme aujourd'hui le chercheur ou l'idéologue ou le théologien musulman, qu'est-ce qu'il est en train de faire? De sélectionner. Comme on fait, par exemple, Daesh, un exemple tout simple, ils cherchent des textes de violence, et moi, que je suis, par exemple, anti-Daesh, je vais chercher des textes de paix. En fait, on n'a pas résolu le problème. Là, par exemple, il nous a parlé de Shifa. En fait, c'est un personnage qui n'a tout simplement jamais existé dans le patrimoine. En fait, c'est juste un personnage imaginaire que, soi-disant, a été désigné par Omar Mkhattab quand on juge. Je ne voulais pas tout à l'heure reprendre de Cheikh sur cette question.
Non, donc, parce que l'imam Abdelali Mamoun nous a pris cet exemple-là hors antenne. C'est pour ça.
Justement. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on commence par les mosquées, là où, de sorte, les musulmanes, par exemple. Quand vous allez voir dans une mosquée, vous allez voir que les femmes sont prises soit dans un chapiteau, soit au fond de la mosquée. Les femmes, jusqu'à ce jour-là, les musulmans, les savants musulmans, considèrent leur voix comme une partie intime de leur corps. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'entendre, ou bien la femme n'a pas tout simplement de lever sa voix. Même en évoquant le nom d'Allah, si par exemple, un exemple tout simple, un imam se trompe dans sa récitation, les hommes peuvent corriger sa récitation alors que la femme doit applaudir. Pourquoi qu'elle ne peut pas prononcer? Aujourd'hui, en islam...
Comme un phoque.
Dans l'islam, c'est fondamental. Par exemple, à l'époque, ce qu'on rapporte dans les textes qui ont été authentifiés, pratiqués par l'ensemble des savants musulmans, c'est qu'affranchir un esclave te sauvera de l'enfer, selon le texte d'Abi Umam al-Bayli, qui est authentique selon l'ensemble des savants musulmans. Et affranchir deux esclaves femmes te sauvera de l'enfer. Ça veut dire que la femme et l'homme, en fait, ne sont pas tout simplement égaux. Il y a une injustice. Il y a encore d'autres exemples. Tous les textes, on voit que le système qui a été mis en place vise la femme musulmane. C'est pour ça que j'ai fait la différence entre l'islam du prophète, l'islam de la révélation, l'islam du Coran et l'islam des hommes et des quatre siècles.
Erika.
Alors évidemment, je ne suis pas théologienne, je ne vais pas parler de... Parce que depuis on parle du passé, de ce qui s'est dit. Évidemment, c'est le fondement de notre religion, mais on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, je vais parler en tant que musulmane de France, aujourd'hui, voilà.
De 2018.
De 2018, bien. Voilà. Bon. Donc, on va mettre les pieds dans la réalité, si je peux me permettre, hein, en tant que Française qui se revendique, ou pas féministe en tout cas, qui se revendique comme une femme musulmane d'aujourd'hui, et qui est libre et qui est fière de ce qu'elle est. Moi, la transition entre 17 ans avant que je sois musulmane aujourd'hui, si j'étais restée catholique très pratiquante ce que j'étais, je n'aurais pas eu le droit de divorcer, je n'aurais pas eu le droit d'avoir du plaisir sexuel, je n'aurais pas eu le droit de choisir mon mari jusqu'à 1906, ce qui est un droit qui est très récent. Je compare parce que c'est la réalité. La réalité fait que si en tant que musulmane, mes droits, je ne les ai pas vus bafoués du tout en tant que femme qui revendique mes lectures, mes références religieuses féministes, excusez-moi, messieurs, qui étaient Simone de Beauvoir et qui étaient George Sand, elles sont restées les mêmes. Je continue à les relire et je me retrouve toujours de la même façon dans ces lectures-là, comme il y a plus de 20 ans. Donc, de me dire, quand j'entends dire des hommes, et puis de dire, parler à nos places, de dire que oui, non, il y a une contradiction. Je suis musulmane et je ne vois aucune contradiction dans ma vie de tous les jours. Parce que, oui, je la vois où ? Je la vois dans le jugement des hommes de certaines cultures qui me disent qui me disent, nous, en tant que femme, tu ne peux pas faire ci. Alors, en plus, me dire ça à moi, c'est encore pire. Mm-hmm. Voilà.
Alors, Nadia El Bouguia.
Oui, je veux dire, pareil, comme Erika, je ne suis pas théologienne, mais je suis croyante et musulmane.
Et pratiquante.
Pratiquante, tout à fait. Et ce qui, moi, m'a interpellée dans cette belle religion, c'est qu'à la base, le fondement, quand même, du message divin, c'est que nous sommes issus, hommes et femmes, d'un même souffle divin. Donc l'égalité, cher Kamel, elle vient déjà de là. Donc il n'y a pas sujet. Alors on ne va pas parler d'égalité de genre ou de sexe. C'est la même chose dans les oreilles des gens. C'est-à-dire qu'à la base, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés égaux. C'est-à-dire que nous serons rétribués comme nous serons punis de la même façon. Nous avons exactement les mêmes injonctions au niveau de nos croyances et de nos pratiques. Donc, pour revenir à la question de base qui est-ce que le féminisme est compatible avec l'islam ? Oui, il est totalement compatible avec l'islam parce que, n'oubliez pas, et je donnerai la parole, n'oubliez pas quand même que quand l'islam est arrivé, il y avait un avant et un après. Et donc, l'islam est arrivé avec un changement qui est à la base féministe. Les femmes n'avaient pas de droit, elles étaient héritées comme les objets. Les femmes,
Elles étaient enterrées vivantes.
Exactement. Donc, c'est pas... Il n'y a pas que Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir et j'en citerai d'autres qui ont instauré le féminisme.
Vous les citerez après une page de publicité courte. Kamel, on vous a interpellé, restez avec nous. C'est Ramadan & Co jusqu'à 20h sur BFM.
Ramadan & Co revient dans un instant. 19h, 20h, Ramadan & Co.
Avec Philippe Gomichon, Reblochon. Philippe, ça c'est sûr, mais je le kiffe, hein, je l'aime beaucoup.
Avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam est-il une religion féministe ? Avec ce soir Nadia El Bouguia qui est là, Karima Shadibaou qui est très dissipée, Erika avec nous également, le cher Islam Ibn Ahmad. Nous avons également Maître Mourad Serran qui est sur ce plateau, Jameldine Oulad et Kamel Chekat qui est avec nous au téléphone et qui est un peu désavantagé parce qu'il ne peut pas intervenir en même temps que vous. Jameldine, Karima, c'est Dibaou.
Oui, ouais. C'était pour co-construire avec ce qui a été dit au départ et avec aussi ce que dit Nadia. C'est que la question n'est pas posée, de mon point de vue, dans le bon sens. Donc moi, je ne dis pas, contrairement à mes collègues, que je suis féministe, parce que pour moi, c'est quelque chose qui coule de source. Bien sûr que je suis pour le droit des femmes, bien sûr que je suis pour être vraiment une femme engagée, une femme qui participe à la société, qui contribue et qui construit, de part déjà sa constitution, et de part aussi sa psychologie et sa philosophie. Moi, j'aime plutôt parler du principe féminin et du principe masculin. Comment est-ce qu'ils font tous les deux pour collaborer et travailler ensemble ? Parce que quand on rentre dans toutes ces discussions, pour moi, c'est des discussions de salon. Je vais être complètement authentique de dire féministe, pas féministe, compatibilité, pas compatibilité. Je suis désolée.
Déjà, à partir du moment où on a prononcé le mot féministe...
Exactement. Il y a une levée de bouclier entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui sont... Non, moi, je suis simplement musulmane, pratiquante. Je suis heureuse d'être musulmane. Pourquoi ? Parce que, de mon point de vue, Dieu m'a donné quelque chose de très précieux. Nadia en a parlé. Elle a dit que Dieu nous a soufflé le même souffle. Nous sommes, nous, les hommes et les femmes, nous sommes créés du même souffle divin. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est clair que nous avons aussi, nous les femmes, une stature spirituelle. Et je préfère parler de ça plutôt que de parler comment est-ce que tu vas te battre pour tes droits. Oui, mais d'abord, est-ce que tu connais déjà ton droit vis-à-vis de Dieu ? Rien que celui-là. Ton droit vis-à-vis de Dieu. Et toi qui as été... en tout cas les femmes qui t'ont précédé, les femmes de ta lignée bien avant toi et au temps même du prophète et avant même le prophète alayhi salam, qui étaient ces femmes qui étaient enterrées, aujourd'hui on les enterre différemment. On est toujours dans le même processus du rejet et du refus du féminin alors que le féminin fait partie de la vie.
Jameldine Moulad.
Philippe, moi je voudrais rebondir sur ce qu'il dit Karima et avec deux points. Le premier, je reviens un petit peu à l'histoire, il faut revenir à l'origine pour pouvoir comprendre, il faut revenir à l'esprit coranique. Le premier, c'est comment on vient au monde. Donc si je demande à ce nombril-là, que hommes et femmes on a, il nous donne l'histoire de où nous venons. Avant, c'était une goutte de sperme et une ovule là et là, donc on est égaux là. Après, c'est tout un travail et une résidence pendant 9 mois dans la matrice. À un moment donné, hommes et femmes, on a la volonté à deux et on a une intelligence à deux de prendre le chemin, de sortir pour vouloir grandir. Et là, on est égaux. Il n'y a pas un privilège pour le garçon sur la fille ou la fille sur le garçon. Maintenant, je reviens à l'esprit coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé le premier être, Adam, il lui a créé sa père. Donc, dans le Coran al-Karim, et ça c'est important de revenir un petit peu au Coran et revenir dans les mots utilisés par le Coran al-Karim, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala parle de Zawj. Ya Adam uskun anta wa Zawjouk. Il ne dit pas anta wa Zawjatouk. Le mot Zawja n'existe pas en langue arabe. On l'utilise tous les jours. Le mot Zawja, je le répète, il n'existe pas dans la langue arabe.
Quand donc, expliquez à tout le monde, Jamaldin.
Donc là, il parle de la parité. Il dit, ô Adam, toi et ta père, toi et ta père, résidez dans le paradis. Mangez comme vous le voulez. Et ne vous approchez pas de tel arbre. Donc le paradis, c'est quoi? Le paradis, c'est le bien-être qu'on va partager à deux. Il invite les deux en même temps à résider, à partager le paradis, à le manger. Manger, ça veut dire quoi? Manger, c'est co-gérer ensemble, c'est partager ensemble ce qu'on va manger, ce qu'on va récolter comme fruit. Et dans la gestion, il y a des choses qu'on peut faire et d'autres choses qu'on ne doit pas faire. Mais à deux, l'invitation, il est faite à deux. Quand l'Asprantat veut parler de la femme d'eux, il n'utilise pas le mot Zawja, il utilise Imra'a. Imra'atu Fir'aoun, Imra'atu Nuh, Imra'atu Lot. Et dans la langue arabe, c'est très important de différencier les deux.
Donc,
juste Philippe, initialement, l'invitation divine, la volonté divine, il a créé deux êtres égaux et il les invite à partager et adorer sur tous les plans. Maintenant, ce qu'il dit Dieu, c'est une chose, et ce que les hommes, musulmans, pas musulmans, musulmans et pas musulmans, ils font autre chose.
Donc ça, c'est la religion des hommes, vous voulez dire.
Voilà. Alors, justement, c'est une très bonne transition, parce que, pour compléter également ce que dit Kalima, dans l'essence de ce qu'a dit Kalima, on se retrouve complètement. Mais pourquoi deux musulmanes pratiquantes disent, se qualifient différemment? Moi, je le dis, je l'ai toujours dit, j'aurais aimé dire tout simplement « je suis une femme musulmane humaniste ». Sauf que la réalité mondiale des femmes, la réalité notamment des sociétés arabo-berbéro-africano-musulmanes, fait que les femmes, et notre frère Cheikh Islam l'a très justement dit, elle est qu'on a 14 siècles d'exégèse médiévale qui sont basées sur une interprétation patriarcale, et on a utilisé l'interprétation des textes
patriarcales,
scripturaires.
Ça veut dire des hommes.
C'est-à-dire des personnes qui ont un problème avec leur masculinité, hein, si je rejoins ce, oui. ce que dit Kalima. Parce qu'il y a des hommes féministes, rappelons-le quand même. Il y en a même beaucoup plus qu'on ne le croit, et chez les musulmans. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement qu'il y a une réalité, il y a l'islam, effectivement, de ce qu'on dit tous depuis tout à l'heure, et le message qui est... Effectivement, nous sommes égaux, femmes et hommes, face à Allah subhanahu wa ta'ala, sur le plan spirituel. Mais il y a une réalité terrestre. La réalité terrestre est que cette égalité de fait, divine, elle n'est pas appliquée. Les femmes subissent l'oppression de certains systèmes sociaux et sociétaux en utilisant les textes religieux. Et c'est là où le bât blesse.
Alors, cher Islam.
Ça fait du bien d'entendre ces belles paroles. En fait, mais ça reste des belles paroles. Mais je pense que si on est venu ici pour trouver une solution, pour essayer de résoudre la problématique sur laquelle insiste.
Moi, j'ai des solutions, Inch'Allah, à proposer.
J'arrive,
j'ai des défis, Inch'Allah.
Le frère, par exemple, il nous a rappelé le verset dans lequel Allah parle de Adam, Hawa, etc. En fait, c'est beau. En fait, mais c'est pas ça le problème. Si on part du principe que le sujet d'aujourd'hui, la thématique, concerne être l'islam et la femme. L'islam et la femme, au fait qu'on s'interroge sur l'islam. Qu'est-ce que dit l'islam? Et nous, on a tendance à mettre l'accent sur les versets qui nous arrangent dans ce contexte actuel politique.
On en revient au choix.
Oui. Mais le problème, en fait, ce n'est pas ça. Le problème, parlons-nous du concret, de la vie quotidienne. Ouais. Est-ce que la femme peut voyager? Non. Quand la femme lit le Coran, qu'est-ce qu'elle lit? Lorsqu'une femme lit dans le Coran et elle lit « les hommes ont l'autorité sur la femme », pour moi, c'est problématique.
moi, je vous pose
ça, c'est une traduction.
Je vous pose une question. Vous êtes imam d'un mosquée.
On laisse finir. Islam, et après, vous posez la question.
Et donc, il y a un problème. Il faut qu'on fasse un travail de fond. Ce n'est pas juste dire des belles paroles ou parler de Adam ou de Hawa ou parler de Shifa qui n'a jamais existé. Mais en fait, il faut qu'on trouve des solutions. Aujourd'hui, la femme musulmane attend une solution qu'Allah lui a apportée 14 siècles plus tôt.
Pas la femme, les femmes.
Alors, Jamadine, votre question, Jamadine.
C'est pas juste les femmes, s'il y a des hommes aussi qui attendent. Moi, je vous pose
dans
une
votre
question
micro.
Concrète.
Non, vous posez
je
là,
pose
dans
une
le
question
micro,
concrète. Oui. Vous êtes imam d'un mosquée. Seriez-vous demain d'accueillir dans votre mosquée une recteur femme musulmane doctorante qui a un doctorat avec excellence?
Bien sûr.
Seriez-vous donné les mains
à la tête d'une mosquée?
Bien sûr.
Seriez-vous
parce
donné un institut dit musulman et qui doit être géré par une femme doctorante qui a eu l'agrément de tout le monde et qui a son doctorat?
Cheikh Islam, il dira oui, mais dans la réalité du terrain,
non.
Jamais. On voit bien en Occident où on dit qu'il y a pas mal de musulmans qui sont dans une démarche réformiste, eh bien, au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a zéro mosquée avec une femme qui serait rectrice. Et il n'y a rien dans les textes qui l'interdit. Donc, je donne la parole juste après. Juste ce que vous dites, en fait, et ce qui est fondamental, c'est qu'il y a deux problématiques. Il y a les exégèses, l'interprétation, qui est faite des textes, parce que ça, c'est ok, les textes, ça reste quelque chose de dans les hautes sphères, mais on les interprète pour pouvoir pratiquer. Donc il y a une problématique des exégèses et aussi une problématique tout simplement de la vision de la place des femmes dans la cité, parce que quand on est obligé de remonter à l'histoire, quand on voit dans l'histoire la place qui a été faite aux femmes avec l'apparition de l'islam, on voit que maintenant au contraire on essaye de les mettre au banc. Donc concrètement, il va falloir retravailler, et ça, il faut avoir le courage de le faire en islam, retravailler l'interprétation des textes. Parce que c'est ça qui nous tue, les femmes.
Alors, je vous laisse, allez-y, et puis on prendra Kamel Chekat qu'on n'entend pas. Alors,
si
allez-y, chérie.
Si vous permettez, en 50 secondes, 41 secondes, je vous explique exactement ce qui s'est passé durant 14 siècles. Vous me donnez juste 40 secondes. La première chose, en fait, il y a 4 facteurs, ou bien 3 facteurs, qui ont fait que la femme aujourd'hui se retrouve dans cette situation critique. La première chose, en fait, c'est l'influence des traditions anti-islamiques, les traditions arabes. Deuxième chose, en fait, c'est l'influence des écrits non islamiques, du yémanite, du juif, etc. Et la troisième chose, c'est le rôle de la politique. Je vais vous donner un exemple, oui. Si vous voulez, je vous donne des centaines d'exemples, juste par point. En fait, j'ai tout un ouvrage sur la question. La première chose, je vous donne un exemple tout simple. La femme, dans le hadith aujourd'hui qu'on a, les femmes sont diminuées, sont faibles, sont limitées dans leur raison. Et la religion, le hadith que vous connaissez, Naqisat, Aql wa Din. C'est un hadith qui est rapporté de façon pratiquement notoire. Quand j'ai étudié, j'ai analysé le texte, en fait, la source la plus ancienne de ce texte-là, en fait, c'est le Hassan al-Basri. Je prends le Hassan al-Basri, même si vous ne le connaissez pas. En fait, c'est le Hassan al-Basri, c'est celui qui rapporte « l'an yufliha qawm wallaw amrahum limra'a », qu'un peuple qui se laisse diriger ou gouverner par une femme n'aura jamais la réussite. Oui. Mais en fait, il n'est rapporté que par ce texte-là. Je peux vous citer la liste de tous les textes islamiques qui ont été authentiques, qui se trouvent dans nos authentiques, et qu'on revienne à cet homme-là. Quand on s'intéresse à cet homme, en fait, c'était un homme qui était tout simplement arabe, c'est-à-dire arabe anti-islamique, arabe anti-femme. On lui pose une question toute simple. On lui dit, est-ce qu'on peut sacrifier une bête pour le nouveau-né s'il est garçon? Il nous dit, bien sûr, on fait deux bêtes. Et si une fille, il nous dit, la tukram, elle n'a pas le droit d'être honorée. Mais en fait, c'est cet homme qui est à l'origine de...
Oui, donc il a un problème.
Mais vous prenez...
Ça, c'est de la misogynie et ça, c'est de la...
Je termine juste la phrase.
Il a dit 40 secondes. Bon,
oui,
ça fait 40 secondes d'arabe.
mais la question, c'est que quand vous regardez dans les textes, dans les chaînes de transmission, il n'apparaît pas dans les chaînes de transmission. Donc, il faut le chercher. Et la deuxième chose... en très bref, on parle souvent des femmes qui sont de catégorie des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas vu, qui sont des femmes qui viendront au jugement dernier, qui étaient vêtues mais mal vêtues, etc. Ce genre de texte où la femme qui coupe la prière, trois choses coupent la prière, l'âne, le chien et la femme, et c'est un hadith sauf dans les authentiques, ces hadiths-là, ils ont une origine tout simplement juive. Et on a fait le travail, et j'ai prouvé par A plus B que, en fait,
c'est l'empreinte judéo-chrétienne sur nos textes.
La troisième chose, en fait, le rôle du régime à l'époque, et c'est ce rôle, j'ai trouvé son influence plutôt dans les domaines qui touchent les droits, tout ce qui est droit, par exemple la compensation financière, l'affranchissement des esclaves, etc. En fait, le régime Omayyade durant le premier siècle a mis en place tout simplement un système pour
Alors, je voudrais juste rectifier une chose. C'est pas une influence judéo-chrétienne. Non, mais c'est important. C'est pas qu'une influence judéo-chrétienne. Il faut savoir que la misogynie, elle existe depuis l'Antiquité. Oui. Je veux dire, Socrate, Aristote étaient des misogynes par excellence.
Ne soyez pas misogyne. Je voudrais que Kamel Chekat s'exprime, moi, Nadia. Mmh. Alors, Kamel.
Allô.
Oui, on vous écoute, Kamel. Hein.
Je voudrais juste mettre... Bon, je suis en train d'entendre des voix, mais il y a une voix particulièrement sur laquelle j'aimerais bien mettre un nom.
C'est Nadia El Bougache.
C'est moi, c'est ça.
Non, pas vous. Celui qui est en train de dire que Shifa n'a jamais existé.
Alors,
ça
c'est Shir Islam Ibn Hamad.
Comment ?
C'est Shir Islam Ibn Hamad.
Et c'est un Shir en plus.
Ben oui.
Et on aura tout fait, quoi.
Alors, allez-y. Kamel, allez-y. Alors, plutôt que de porter des jugements sur la personne.
Excusez-moi, c'est une femme qui va départager, je suis désolée, mais on est dans un débat, il n'y a pas d'attaque personnelle. On peut ne pas être d'accord, mais on n'attaque pas personnellement un individu. Je remets juste un cadre.
Tout à l'heure, laissez-moi parler.
D'accord, mais on n'attaque pas personnellement les gens.
Alors, Kamel.
Parce que non, dire. Quand votre vis-à-vis parle et que vous taxiez ce qu'il vient de vous dire de mensonger, je suis désolé. Nous ne sommes plus dans le débat, on est dans la négation. Quoi. L'islam est une religion qui a des textes fondateurs, ils sont ce qu'ils sont. Maintenant, dire que Hassan al-Basri, c'est à lui que remonte telle ou telle autre source, je suis désolé, il y a des aberrations qui viennent d'être dites, c'est incroyable. Le problème que nous avons à l'heure actuelle dans le monde musulman concernant la femme, moi je ne vis pas en Occident, je vis en Algérie. Je suis conscient d'une chose, c'est que si la femme n'est pas instruite et si elle n'est pas émancipée, c'est plus de 50% de la société qui est mort, tout simplement. Donc, il faut que cette femme bouge. Et il est temps, tout simplement, que ce soit les femmes elles-mêmes qui prennent en charge tout cela. Parce que si ça reste entre les hommes, on aura toujours ce petit parti pris qui nous fera dire telle ou telle autre chose.
Mais c'est Kamel.
Non, pour l'instant, non. On laisse terminer Kamel Chekat et on reviendra tout à l'heure là-dessus. Terminez Kamel, s'il vous plaît.
Il est indéniable que l'avènement de l'islam a donné des droits à la femme que nul ne peut nier. Il y a tout un travail qui a été fait et il est tout aussi vrai que des hommes, essentiellement des religions entre guillemets, ont tout fait pour arrêter, stopper tout cela, malheureusement pour nous. Maintenant, vous avez posé une question au début. Elle a une connotation idéologique ou philosophique ou des bases philosophiques. Je suis d'avis qu'il y a une incompatibilité totale entre le féminisme et la démarche musulmane quant à émanciper la femme. Pour le reste, nous partons normalement du principe qu'il y a des droits naturels qu'il faut assouvir, qu'il faut assurer. Et c'est tout simplement aux gens bien éclairés de faire ce travail.
Alors, on marque une pause, Kamel, parce qu'on est pris par le temps. Vous savez qu'il y a un petit peu de publicité. On revient dans un instant.
Ramadan Enko revient dans un instant. 19h, 20h, Ramadan Enko.
Avec Philippe Gomichon. Reblochon, Regomichon. Philippe, ça c'est sûr, mais je le kiffe, hein, je l'aime beaucoup.
Avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
L'islam est une religion féministe. On en parle avec Nadia El Bouga, Karima Chedibou, Erika, Maître Mourad Serran, cher Islam Ibn Hamad qui est avec nous. Jamaldine Oulad et nous avons au téléphone Kamel Chekat. Alors, Maître Serran, je voulais un peu d'amour dans ce monde de
brutes. Oui, merci, je suis synonyme d'amour. Je voulais simplement préciser que le féministe que je suis, parce que je le suis devenu, mais je le suis devenu comment ? Enfin, je le suis devenu en voyant ma fille grandir. C'est-à-dire que j'étais moi aussi dans ce carcan ou l'Ostrogoth dans toute sa splendeur. Je me posais même pas la question. C'est pire que tout de pas se poser la question. Et c'est vrai qu'en voyant ma fille grandir, qui a 23 ans maintenant, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une difficulté. Et la difficulté, je la vois même au quotidien, moi encore, à ma maison, je l'ai dit, j'ai 4 garçons. Et puis, quand je vois le comportement, parfois, les mini-dérapages de leurs frères, et quand la réponse est « bah oui, mais c'est ta fille, ou vois avec Katia », donc je... Ma fille s'appelle Katia. Ils ont ce raisonnement. On a l'impression qu'effectivement, c'est normal de tenir de tels propos simplement parce que la personne est de sexe féminin. Et ça, au moment où on se parle aujourd'hui, je rejoins Erika quand elle a dit que ce serait bien peut-être de recentrer un peu le truc dans notre période.
Dans le quotidien.
Ah oui, dans voilà. Le quotidien. Et ça, effectivement, ça m'interpelle encore. Alors, je leur tire les oreilles, je leur explique à nouveau. Mais à coup le pas. C'est-à-dire que c'est une question, moi, qui... honnêtement, m'intéressait même pas. Donc c'est une question qui m'intéresse et qui m'intéresse davantage grâce à ma fille, et c'est parce que je vois qu'effectivement il y a une vraie difficulté aujourd'hui.
Vous cachez tellement bien votre féminisme, Maître Serran, que c'est une révélation. Erika.
Je vais poser une question peut-être un peu dérangeante à Maître Serran. Est-ce que vous pensez avoir été un peu la cause, parce que c'est vous qui avez élevé vos garçons, qui avez élevé votre fille, à leur réaction
à comment Mais ils complètement. Sont avec... Non, mais c'est vrai. Mais,
d'accord.
Mais c'est une réalité, d'accord. Mais bien sûr,
parce
bien
que,
sûr.
Parce que justement, oui, je voulais rebondir aussi sur ce que disait Maître Shekat très justement, cher Issam, c'est que en fait, moi, concrètement, je me dis, on est où là? Parce que moi, je ne manque de respect à personne, avec tout le respect que j'ai pour la science, etc. On est en France. Moi, je ne sais pas pourquoi on fait intervenir quelqu'un qui, comme il l'a très bien dit lui-même, hein, il n'est pas en France, il n'est pas français, il ne connaît rien des mœurs. Nous, on a grandi ici. Je veux dire que notre place de femme, on la connaît dans le quotidien. Et c'est pour ça que je retrouve rien dans ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Moi, personnellement, pour avoir été donc projeté dans l'islam, sans ce carcan là culturel et ces 14 siècles, comme vous dites, de patriarcat, pour le coup, moi, j'étais dans une culture qui est totalement matriarcale. Donc moi, je suis venue avec sans revendiquer, comme le dit très bien Karima, le féminisme, parce que moi, il est acquis. Je veux dire que j'ai pas demandé quoi que ce soit. Moi, je cherchais pas à ressembler à un homme. Je n'en ai strictement rien à faire. Franchement, je m'en bats les steaks.
Et vous ressemblez très peu à un homme, hein, je vous rassure.
Beaucoup. Et moi, tout ce que je veux, pour moi, si je dois définir le féminisme, c'est de disposer de mon corps, de mon esprit, comme je l'entends. C'est là où est la limite. C'est là, du moment où on enfreint ces limites-là, là, je sens que je suis atteint dans ma féminité. Maintenant, l'islam ne l'a pas enfreint d'aucune façon pour moi. Je voulais juste en venir au fait que, messieurs, voilà, en tant que bonhomme, les dominants, là, vous pensez que nous, on veut vous ressembler. Mais c'est pas ce qu'on veut. Et quand ma religion me dit voilà où est ta limite à toi, je vois pas ça comme le fait qu'on me limite, mais qu'on veut même qu'on me protège. Donc, c'est encore une question d'interprétation et de vision de la chose. Moi, je vois, quand on me dit oui, je peux pas voyager seule. Mais oui, j'en vois la logique. Parce que oui, une femme qui va à l'autre côté du monde avec... Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Je vois les raisons et je ne vois pas ça comme le fait qu'on veuille me rabaisser ou me différencier des hommes. Voilà.
Moi, ce que je voudrais rajouter et co-construire, déjà, la première des choses, c'est qu'il y a une telle diversité sur ce plateau. Et vraiment, c'est très beau. Et le débat, chacun vient avec son histoire et avec ses représentations et comment est-ce qu'il voit les choses et comment est-ce qu'il veut aussi que ça change. Et ça, c'est moi, franchement, j'ai envie de dire bravo, c'est super. Donc, tout ce qui a été dit, de mon point de vue, est utile. Mais ce qu'a dit notre frère Kamel Shekat, qui est de l'autre côté de la Méditerranée et que je salue, c'est aussi important. Il termine en disant que c'est à nous, les femmes, de nous réapproprier, en fait.
Et là, je suis d'accord
nos droits et revendiquer. Maintenant, est-ce qu'on va le faire dans une démarche qui est revancharde? Moi, personnellement, ce n'est pas mon attitude. Pourquoi? Parce que pour moi, ma démarche, c'est vraiment d'être dans la co-alliance, de co-créer ensemble, de faire quelque chose. Il y a le principe féminin, on est différents les uns des autres. Le masculin est différent du féminin, le féminin est différent du masculin. Donc plutôt que de se dire, oui, est-ce qu'on rentre dans un rapport de domination? Domination-soumission, parce qu'il s'agit de ça. Quand tu parles, Erika, du matriarcat, exactement. Moi, je viens aussi d'une famille où les femmes ont un pouvoir extraordinaire.
Mais quand je te dis extraordinaire... Mais tout en respectant les hommes. Mais nous, elles n'écrasent pas les hommes.
Mais c'est exactement le même processus.
Je suis d'accord avec toi.
C'est le même processus. Pourquoi ? Au lieu de s'attirer et de voir qu'est-ce qu'on peut réaliser ensemble, chacun dans ses rôles, quand je dis ses rôles, alors attention, parce que ça aussi c'est galvaudé, mais par rapport à qui je suis, mon identité, et de pouvoir vraiment travailler ensemble et pas venir... ces relations-là, les gâcher par un ego démesuré ou parce que je veux dominer et soumettre l'autre. Que ce soit un homme ou une femme, pour moi, c'est le même principe.
D'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Karima. Après, je laisse dire. Je suis d'accord avec toi, Karima. C'est pas un travail. Il faut pas dire aux femmes de s'approprier. C'est un travail de hommes et femmes. Et Allah, Zawajal, nous le dit. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Donc, les croyants et les croyantes sont des alliés, on est là pour travailler ensemble, et non pas que chacun travaille de son côté. Donc c'est une volonté à deux, et c'est la zawj. Zawj, dans la zawj, il part dans le Coran al-Karim, et qui va partager le paradis, c'est la coalition, ou l'alliance croyant-croyante, homme et femme, pour le bien de tout le monde.
Oui. Oui, pour compléter ce qui a été dit, effectivement, moi, pour ma part, je ne suis ni pour un patriarcat, ni pour un matriarcat. Exactement. Je suis pour un écuarcat, c'est-à-dire tout simplement... c'est un néologisme que je viens d'inventer. c'est-à-dire tout simplement que hommes et femmes, on le soit considéré comme dans l'essence où nous avons été créés, c'est-à-dire égaux. Alors, je rejoins effectivement tout ce qui a été dit et ce par quoi a terminé notre frère Kamel. Oui, bien sûr que les femmes doivent se réveiller. Mais j'ai envie de vous dire, elles se sont réveillées depuis très longtemps. Seulement, encore faut-il qu'elles aient la place pour pouvoir exprimer ce réveil. Et pour ça, je suis désolée de le dire parce que je reviens à l'islam. Nous sommes ici, nous parlons... En tant que musulman, il faut qu'il y ait deux choses que certains ont essayé de éluder. C'est premièrement, je reviens là-dessus, une réinterprétation des textes. Je suis désolée de le dire, mais il y a une réforme à faire sur ce sujet-là et beaucoup de savants sont d'accord là-dessus. Et réouvrir les portes de l'ijtihad. Parce que c'est justement pour pouvoir réinterpréter à la lumière de nouvelles sciences que l'on a au jour d'aujourd'hui, il faut pouvoir réouvrir cette porte de l'ijtihad, de l'effort intellectuel en islam.
Alors,
de ce micro, j'appelle à ce qu'on puisse revoir, ou je demande à ce qu'on puisse revoir le patrimoine, car je pense que c'est ça la solution. Ce n'est pas l'interprétation qu'il faut, ou la réinterprétation, il faut revoir le patrimoine.
Alors, qu'est-ce que vous appelez le patrimoine?
C'est-à-dire... On a le Coran. Allah a fait descendre le Coran sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète l'a mis en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On est face à 14 siècles de tentatives humaines à désorienter tout simplement cette révélation. Il faut tout simplement qu'on retravaille ça. Donc ce n'est pas juste réinterpréter. En fait, c'est de proposer quelque chose. Et je dis
proposer quelque chose, c'est l'ijtihad.
Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des grands hommes et de grandes femmes qui ont fait un travail extraordinaire. Donc je ne partage pas à 100%. Ça, il y a de grands hommes et de femmes, grâce à eux, l'islam est encore aujourd'hui.
Vous voulez dire que ce travail a déjà été fait?
Ben oui, il y a certaines choses. Donc voilà, il y a des choses
qui sont fausses.
C'est grâce, il y a des choses qui sont fausses. Mais il y a beaucoup de choses qui sont bien et dont on doit être fier.
Alors, laisse terminer.
La question, ce n'est pas de faire un procès pour les hommes. On parle du patrimoine, des textes qui ont été transmis durant des siècles. On ne parle pas des hommes ni faire de procès pour les hommes. Ils ont fait le shihad dans leur contexte, ça ne nous concerne pas, tout simplement. Deuxième chose, de ce micro, j'appelle la femme, tout simplement, à...
Les femmes, il n'y a pas une femme. Il n'y a pas qu'une seule femme.
Voilà. Exactement.
J'appelle tout simplement, car généralement, nous, dans le texte, en arabe, lorsqu'on utilise une singulier, c'est indiqué...
Non, mais on parle en français, là. Donc, les femmes. Nissa, les versets, c'est les femmes. Nissa, c'est au pluriel.
Moi, j'appelle de ce micro les femmes à faire face à ce patrimoine qui dure depuis 14 siècles, qui n'arrange que les hommes. Et je leur dis... Je leur dis, venez à la bonne annonce qu'Allah Ta'ala a cité dans le Coran al-Karim en parlant « Qad sami'a Allahu qawla allati tujadik ». Allah Ta'ala va vous entendre. Et pensez-vous, vous, à cette femme qui, ce texte est rapporté pratiquement de façon notoire d'après Ikrimah, d'après Ibn Abbas et d'autres gens que je cite de source, lorsque cette femme est venue à dire « Ya Rasulallah, mon père m'a imposé que je me marie avec quelqu'un que je n'aime pas, liyarfa'a bi khasisata », et lui, Nabi Sosmi a dit « Ton mariage est entre tes deux mains, fais ce que tu veux », elle lui a dit « Je ne suis pas venu pour moi ». Je suis venu afin que les femmes sachent que les hommes n'ont pas d'autorité sur elles.
Moi, je pourrais finir juste...
Le mot de la conclusion, oui.
C'est pas...
Oh, j'ai peur.
Il écoute les femmes, il les entend, ça, il n'y a pas de souci. C'est à nous, les hommes, d'écouter la femme et de leur donner une place. Et pas juste avec
pourquoi
la parole.
On passe par les hommes.
Avec la parole. Mais on en a besoin. On en a besoin. C'est un travail ensemble. C'est un travail d'équipe.
C'est une collaboration.
C'est une collaboration à deux.
En tout cas, merci d'avoir ouvert le débat aujourd'hui, parce que c'est justement l'islam dans toute sa splendeur, ce qu'on a représenté aujourd'hui dans l'échange.
Voilà, et dans un instant...
Courageux, aimons-nous et gardons le sourire et sourions à la vie.
Bien, et il va sourire à la vie dans un instant, puisque c'est lui qui va prendre la relève. Merci à vous de nous avoir écoutés, merci à vous d'avoir participé. Allô l'imam, dans un instant, 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 19h à 20h sur Beurre FM.